Il est 19h sur Bac FM 106.1, c'est l'heure de votre émission Prévence, votre émission 100% santé où on essaie de tous comprendre un peu mieux comment marche notre corps humain. Ce soir, on va parler d'autisme, sujet très large, puisqu'il s'agit en réalité d'un spectre et que donc il y a autant d'autisme que d'autistes différents. Je tiens tout de suite à faire un rappel qui me tient à cœur. Prévence, l'émission que vous écoutez, est certes une émission santé. En revanche, l'autisme n'est pas une maladie, c'est une variation neurodéveloppementale pouvant être associée ou non à des maladies mais ne correspond pas du tout à la notion de maladie génétique. En bref, ce sont des gens différents, sans doute difficiles à adapter à un monde bien trop étriqué et fermé sur lui-même pour accepter les personnes qui sortent du moule. Voilà, ça c'était pour la petite partie édito. En seconde partie d'émission, je recevrai un expert de ce trouble, mais en première partie, Bac FM vous propose un témoignage personnel d'une élève qui connaît bien cette situation. Salut Sokaina. Salut Sokaina.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Bac FM.
Y a pas de souci.
Alors, je crois que ta sœur est du coup touchée par l'autisme. Est-ce que tu veux un peu nous raconter ton histoire?
Alors, je vous explique. Je suis grande sœur de deux petites sœurs. Ma première sœur, elle s'appelle Camélia. Elle a 10 ans et demi. Et ma deuxième sœur, elle s'appelle Cyrine. Elle a 3 ans. Et oui, ma première sœur, Camélia, elle souffre d'autisme. D'autisme sévère à 80%. Et on l'a su dès petite, parce qu'on voyait déjà quelques troubles, quelques mouvements, on avait quelques doutes sur ça. Et du coup, on s'est posé des questions, on a fait des démarches et des personnes qui nous ont aidés. Et elle a été diagnostiquée en octobre 2018.
Ok, et du coup, elle a quel âge?
Elle a 10 ans et demi.
Ok, et du coup, ton autre sœur n'a pas de trouble autistique. Ok. Est-ce que ça a été un soulagement de mettre un mot sur sa différence, de dire, voilà, en fait, elle est un peu différente parce qu'elle est autiste?
En fait, son autisme, c'est quelque chose qui est en elle. Mais pour moi, Camélia, c'est d'abord ma sœur. C'est d'abord la personne qu'elle est, ses qualités, nos souvenirs, nos délires. Et je vous avoue, sur le moment, c'était assez choquant. Parce que on s'y attendait pas et puis on connaissait pas les démarches, on était dans le sujet, surtout pour mes parents. Moi j'étais encore petite, du coup je me rendais pas compte de la situation encore. Et après, avec le temps, ma sœur elle m'a appris plein de choses. Elle m'a appris que la différence est une force, que mon vrai bonheur il était pas matériel, il était émotionnel. Et ça l'a aussi appris à mes parents. Et mes parents... L'autisme de ma sœur, ça n'a pas été un obstacle aussi pour avoir une troisième fille et agrandir la famille.
Tu es venue nous voir à la radio en disant que c'était important pour toi de raconter ton histoire. Pourquoi tu y tenais?
En fait, tout est parti de l'oral du brevet. L'année dernière, j'étais en troisième, je préparais mon oral. Et en fait, il fallait choisir un sujet qui nous concernait, qui nous touchait. Et un soir, j'étais avec ma maman et ma maman m'a dit... Pourquoi tu ne ferais pas sur l'autisme de ta sœur? C'est quelque chose qui te touche. Et en plus de ça, elle fait partie de ta famille, tu vis avec elle tous les jours. Et je me suis dit, ce serait une super bonne idée. Et du coup, j'ai passé cette oral, j'ai eu même 100 sur 100.
Félicitations.
Merci. Et du coup, en fait, cette oral, j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai fait beaucoup de démarches. J'ai fait une intervention devant ma cage, j'ai été voir des professionnels. J'ai fait une affiche même. Et du coup, en fait, tout cela, toute cette démarche, ça m'a plu. Et j'ai voulu continuer parce que je me suis rendu compte que c'est une cause qui n'est pas assez défendue au quotidien. C'est pas une chose qu'on entend toujours. Et pour moi, en fait, ça serait ma cause à défendre et quelque chose qui est pour moi. Et en fait, ce que je voudrais partager aussi, c'est le fait qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour défendre une cause ou sa propre cause. Et que tout le monde peut défendre sa cause ou une cause qui leur tient à cœur.
C'est un truc que tu as envie de continuer de faire en grandissant après tes études?
Oui, exactement.
T'aimerais travailler dans ce milieu-là ou pas du tout ou comment ça?
Un peu, oui. En fait, c'est que mes sœurs, elles m'ont aussi montré que moi, j'aimerais être dans un métier social plus tard pour aider des enfants, en fait, en cas de besoin. Des fois, ça m'influence aussi. J'aimerais les soigner, j'aimerais les occuper. C'est pour ça que j'aimerais travailler dans ce métier-là.
Pour parler un petit peu de ta sœur... Au quotidien, comment ça, sa façon de se comporter face au monde avec l'autisme, est-ce que c'est difficile?
En fait, c'est que ma sœur est autiste. Elle parle pas toujours comme tout le monde, elle réagit pas de la même façon dont on s'y attend toujours. Mais elle ressent, elle aime, elle rigole à sa façon. Et j'estime qu'on est une famille normale. Certes, peut-être un peu différente des autres, mais on est normale. Et ce qui fait... ce qui fait qu'on reste unique. On est vraiment une famille unique et soudée. C'est pour ça qu'on a quand même des petits moments compliqués, je dirais comme dans toutes les familles. Mais ça ne nous rend pas tristes ni malheureux. Au contraire, je suis là pour montrer que l'autisme n'est pas qu'une faiblesse, c'est aussi une force qui a été pour moi une force et aussi pour mes parents.
Une force. J'imagine en plus qu'il y a encore des moments complices. Enfin, ça reste ta sœur en fait, donc il y a pas mal de délire pour reprendre tes mots de tout à l'heure. Alors, je disais en introduction que le monde était parfois un peu trop étriqué. On a tendance à mettre une étiquette différente sur les gens, alors que c'est peut-être le monde en fait qui va pas très bien. En tant que sœur, est-ce que tu ressens un peu ce décalage quand vous êtes à l'extérieur, dans le regard des gens ou...
Moi, en fait, le regard des gens, c'est quelqu'un juge ma sœur. En fait, ils savent pas qu'elle est autiste. Je sais ce qu'elle vaut, ma sœur. Ma sœur est pleine de valeurs, même si elle a pas forcément les mêmes attitudes qu'une personne ordinaire, je dirais. Mais certaines personnes, malheureusement, elles ont tendance à nous juger. Parce que ma sœur, des fois, elle a des petites réactions d'humeur, ça c'est vrai. Et malheureusement, les gens dans la société, ils ont vite le jugement. Ils ont le jugement très facile même. Et du coup, ça peut être compliqué. Mais moi, ça m'atteint pas trop, en fait. C'est pas pour autant que je vais dire « elle, c'est pas ma sœur ». Tout ça parce que les gens ont jugé son autisme, alors qu'elle savait même pas qu'elle était autiste. Non. Ce qui me fait de la peine quand je vois des gens qui jugent ma sœur, c'est de dire on vit dans un monde où il y a beaucoup de jugement. Et ça, c'est vraiment pas normal.
Mais il est important ton discours parce que tu es une adolescente et tu sais, souvent à ces âges-là, on a tendance à être vachement impacté par le regard des autres, au contraire. Et toi, j'ai l'impression que tu t'es forgé une carapace, etc. Ça a été dur?
En soi, je pense que s'il n'y aurait pas ma sœur, j'aurais pas cette force-là. Parce que ma sœur m'a appris ça et mes parents aussi m'ont appris ça.
Elle t'a donné de la force.
Elle m'a donné beaucoup de force, ma sœur. Et rajoute à ça mes parents qui m'ont toujours appris que les gens, ils jugent. Et en fait, tu les revois une fois dans ta vie et puis ils ont servi à quoi te juger ce jour-là.
À rien.
Voilà, exactement. Et ils t'ont jugé ce jour-là et malheureusement, ils aiment ça. Et on peut rien y faire.
Alors justement, on présente souvent l'autisme sous l'angle des difficultés, mais on parle rarement de ce que ça t'apprend sur la vie, quoi. Tu disais que ta sœur t'avait donné beaucoup de force. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, ta sœur, sur...
Ma sœur, elle m'a appris déjà que la différence est une force. Que mon bonheur, je le trouve que autour de personnes que j'aime. Elle m'a appris plein de valeurs. Elle m'a appris aussi que le jugement facile était quelque chose de très, très mauvais pour nous tous, parce qu'on a tendance à juger certaines personnes, alors que ces personnes-là... elles sont totalement innocentes. Et je pense aussi que, oui, ma sœur m'a appris énormément de choses.
Tu dis qu'elle t'a donné de la force. J'imagine qu'elle-même, elle en a beaucoup pour subir les regards, puis aussi pour affronter l'autisme, ou en tout cas vivre avec. C'est comment elle le vit, ça se passe pour elle?
En fait, ma sœur, c'est vraiment une source d'inspiration aussi. Parce que je la vois à 10 ans, elle supporte quand même un autisme sévère, un handicap lourd. Et ça m'impressionne et du coup ça aussi ça me donne une force pour l'avenir. Je me dis, si ma sœur arrive à supporter ça, moi je peux réussir aussi à faire ça, je peux réussir mes études, je peux réussir mes objectifs. C'est pour ça que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle littéralement. Et aussi grâce à mes parents qui m'ont donné aussi cette force.
Petite dédicace en passant.
Oui.
Si tu avais un message à faire passer aux élèves ici au lycée Ralph Hollerot ou même aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent et qui connaissent mal ce sujet, ça serait quoi?
Pour moi, je dirais que l'autisme c'est un handicap, c'est vrai, mais c'est aussi une façon de vivre pour beaucoup de personnes, comme les personnes que je tiens à féliciter, comme les éducateurs spécialisés, les psychologues, les psychomotriciennes, toutes les personnes qui travaillent autour de l'autisme. Elles se lèvent tous les matins pour aider, pour soigner, pour aider, oui, c'est vrai, ces personnes-là autistes, et en plus de ça, leur famille, les soulager, etc. Et je tiens à les féliciter pour ça. Et puis voilà.
Merci à toi d'avoir accepté de témoigner sur nos ondes. Dans une seconde partie d'émission, je reçois Cyril Larpent, expert du sujet, mais tout de suite une petite pause musicale.
Que la biche soit en moi avec le vol de chaque flèche chasseresse. Dans les virgées des bois, belle la chasseresse, comme je me considère, je me sens inspirée d'un portrait sans comparaison. C'est la source de silence et de douceur. J'ai toujours les yeux de biche. Je me montrerai lucide et charitable à bramer au clair de lune dans cette lisière paisible, sans que la nuit soit toujours blanche. Quel qu'en soit le sourire rayonnant, que la biche soit en moi.
Avec le vol de chaque chasseresse.
Que la biche soit en moi. jour lumineux. Mais avant tout, la nature obtient la sérénité des êtres. Certains ont une grâce à faire de la biche, pour moi une offrande, d'autres aucune. Moi qui ai pour ce rôle soutenant au cœur qui s'attire, je continue de toucher la vie au ciel. Et pour mettre ma témérité habile, je laisse sortir la biche qui est en moi. Que la biche soit en moi.
Avec le vol de chaque chasseresse.
Que la biche soit en moi.
Avec le vol de chaque chasseresse.
Que la biche soit en moi.
Avec le vol de chaque chasseresse.
Que la biche soit en moi.
Avec le vol de chaque chasseresse.
Grâce à un astre lunaire et argenté, pour un nouveau jour aussi, la biche est en moi et moi bien portée d'un arc et d'un carquois. Que la biche soit en moi, avec le vol de chaque flèche chasseresse. Je laisse sortir l'animal qui est en moi. Que la biche soit en moi,
avec le vol de chaque flèche chasseresse.
Vous êtes toujours avec nous sur Bac FM 106.1, vous écoutez Prévence spécial autisme. Merci encore infiniment à Soka Ina d'avoir livré son témoignage en première partie d'émission. Si jamais vous l'avez raté, tout est dispo sur, en podcast sur Bac FM, www.radiobacfm.fr. Pour cette seconde partie, on va rentrer dans le côté plus scientifique du terme, en tout cas afin de mieux comprendre ce trouble qui touche un Français sur 100, c'est assez important. Je précise que ce chiffre tend à augmenter puisque les méthodes de dépistage évoluent en France. Bonjour Cyril Larpent.
Bonjour.
Vous êtes éducateur spécialisé au sein de l'ADAPI 58. Merci d'être avec nous sur Bac FM.
Merci à vous.
Je précise que pendant cette émission, notre stagiaire Calista vous posera des questions également. Alors, pour poser les bases, quand on dit autisme, on parle de quoi exactement ?
Alors l'autisme, on en parle beaucoup aujourd'hui, parfois bien, parfois moins bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on avait fait cette interview il y a 50 ou 60 ans, on parlerait clairement pas du même sujet. C'est-à-dire que l'histoire de l'autisme, c'est un peu l'histoire d'un énorme malentendu qui a mis du temps à se dissiper. Aujourd'hui, on parle de troubles du neurodéveloppement, ou TND, de spectre, de neurodiversité. Mais ça, c'est la version récente, presque moderne. Avant ça, on disait beaucoup de bêtises. Officiellement, l'autisme rentre dans les livres par deux médecins dans les années 1940. On parlera de Léo Kanner aux États-Unis et Hans Asperger en Europe. Ils observent des enfants qui ont du mal à communiquer, qui n'aiment pas trop le changement et qui ont parfois des intérêts très spécifiques. C'est ce qui fera aussi la définition de l'autisme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bref, des enfants qui rentrent pas forcément dans les cases de l'époque. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, on pense que l'autisme est extrêmement rare, très sévère. On va surtout repérer les enfants qui sont très déficitaires et pas forcément les personnes un petit peu, je dirais, normales, comme on peut les appeler aujourd'hui, qui sont ancrées dans une vie quotidienne avec nous et une vie très civilisée. Et donc, on les comprend pas, on sait pas vraiment ce qui se passe dans le cerveau et forcément, quand on comprend pas, ben, on invente. Et là on arrive dans une période un peu compliquée de l'histoire où l'autisme est assimilé à une psychose infantile et où en gros on pense que les enfants sont malades psychiquement. Et là attention parce que suspense, ça va pas très bien se passer pour les mamans. C'est-à-dire qu'à une époque on a même expliqué que l'autisme était causé par des mères trop froides, pas assez affectueuses. On appelait ça les mères réfrigérateurs. Donc c'était vraiment, vraiment quelque chose qui perturbait de manière très... très générale les familles dont les enfants avaient des particularités.
Mais il y a 50-60 ans, c'était hier en fait. Je veux dire, c'était pas
c'était
vieux,
hier. Ouais. C'était hier. On commence vraiment à en parler aujourd'hui parce que on est dans cette mouvance-là aussi d'inclusion. Mais il y a quelques années, il fallait vraiment rentrer dans les normes. Et si l'enfant allait pas bien, tout de suite, voilà, on était dans le tabou. Donc imaginez, votre enfant va mal, on vous explique que c'est de votre faute. Donc la théorie a fait énormément de dégâts. Heureusement, aujourd'hui, elle est totalement abandonnée. Mais c'est à partir vraiment des années 80, où la recherche a commencé à faire son travail aussi, avec des études spécifiques, avec des neurosciences, la génétique. Et là, effectivement, on se rend compte que l'autisme, c'est pas une psychose. On comprend que c'est un trouble du neurodéveloppement. En clair, c'est le cerveau qui va se développer différemment dès le départ, et c'est ni un problème d'éducation et ni un problème d'amour. Dans le diagnostic, si je peux faire une petite parenthèse sur le diagnostic, aujourd'hui on va pouvoir repérer un enfant autiste dès l'âge des 1 an avec des évaluations qui sont proposées. Alors encore faut-il avoir des places de disponibles parce qu'aujourd'hui dans le traitement du diagnostic c'est encore assez compliqué. Pour autant voilà, les évaluations sont là et on est en capacité de pouvoir dire oui ou non votre enfant est autiste et de proposer aussi un parcours de suivi derrière.
Vous l'avez dit, on parle de TSA, trouble du spectre autistique. Pardon. Oui. Est-ce que finalement, il n'y a pas autant d'autisme que d'autistes ?
Vous avez raison. Un autisme est égal à une personne. Un autiste est égal à une singularité. Et un autiste est égal à un accompagnement spécifique. Et c'est vraiment là, en fait, tout l'intérêt de dire que voilà, on est sur un trouble du spectre autistique, puisqu'on va aller du plus déficitaire, du plus lourd en termes d'accompagnement sur tous les actes de la vie quotidienne à celui qui va avoir une vie normale dans la vie civilisée, rangée, qui va avoir un travail, une femme, des enfants, mais qui aura toujours ces particularités-là. Quand on parle d'autisme, du coup, qu'est-ce que l'autisme en soi, finalement ? Donc, c'est des difficultés caractérisées par trois choses. Ce qu'on appelait à l'époque la triade autistique, des difficultés dans la communication, les interactions sociales, mais aussi des comportements intérêts restreints, répétitifs et stéréotypés. Stéréotypés, je m'explique, dans le sens où on a tendance aussi à voir des personnes autistes qui se balancent. Voilà, là, on est vraiment dans une régulation aussi sensorielle, et ce qui m'amène à la troisième particularité, des particularités sensorielles.
Il est difficile de définir l'autisme tant il est différent, tant il y a des formes différentes. D'ailleurs, on n'est pas touché de la même façon par l'autisme, selon si on est un homme ou une femme, et je crois que Calista avait une question à ce sujet.
D'après des études scientifiques, on affirme qu'environ une personne sur 100 est atteinte d'autisme, mais est-il vrai qu'il y a beaucoup plus de cas chez les hommes que chez les femmes ?
C'est alarmant.
Oui, effectivement. Donc une personne sur 100 est diagnostiquée autiste. Et c'est effectivement prééminent chez les hommes plus que chez les femmes. Oui.
Pourquoi ?
Oui, oui. Peut-être une génétique. J'en ai strictement aucune idée. Je ne me suis pas plus renseigné que ça sur le sujet. Mais effectivement, l'autisme touche davantage les hommes que les femmes.
Un mot revient souvent, le mot spectre. Ça veut dire quoi concrètement ? Pourquoi deux personnes autistes peuvent avoir des profils opposés, voire très différents ?
On va être plus sur, quand on va parler de particularités de l'autisme, c'est-à-dire qu'une personne autiste ne va pas avoir les mêmes difficultés dans la communication, ne va pas avoir les mêmes particularités sensorielles. Quand on parle de particularités sensorielles, par exemple, une personne autiste peut être hypersensible au bruit, par exemple, et une autre hyposensible. La vraie difficulté des personnes autistes, c'est de trouver cette régulation dans la sensorialité pour être apaisé, rassuré et vraiment évoluer dans un cadre sécurisant pour elle.
Pour reprendre un exemple concret pour nos auditeurs, vous me disiez en off que vous avez rencontré, je crois, un enfant Asperger. Oui. C'est ça, et qui avec donc certaines capacités assez remarquables.
Tout à fait. Autant effectivement, on a des personnes autistes qui sont très déficitaires et qui vont avoir besoin d'un accompagnement sur tous les actes de la vie quotidienne. Autant ce qu'on appelle davantage dans la vie courante Asperger, où effectivement, moi, dans mon expérience passée, j'ai accompagné un jeune de 17 ans qui savait résoudre des problèmes de mathématiques. Et qui ne savait pas lasser ses chaussures.
Dans un monde où les scratchs existent, heureusement.
Heureusement.
Il est plus dur de résoudre des problèmes mathématiques.
C'est à nous aussi, en tant que professionnels, mais à tout le monde, de pouvoir aussi avoir ces petites observations-là dans le quotidien et de proposer des outils de compensation du handicap. On n'est pas du tout sur un terme qu'on qualifierait de maladie, mais plus d'un handicap, des difficultés à pouvoir s'inclure dans la vie en société et de pouvoir justement... évoluer sereinement.
Beaucoup de gens confondent l'autisme avec un retard mental, voire une maladie. Vous répondez quoi à ça ? C'est quoi les plus grosses différences, en fait ?
Il n'y a pas beaucoup de différences. C'est juste que nous, personnes neurotypiques, le cerveau autiste, si vous voulez, va fonctionner différemment du nôtre. C'est pas qu'il est plus ou moins bien. C'est que il va fonctionner différemment du nôtre, tout simplement. Et donc, il y a des outils, des moyens de compensation à mettre en place pour justement faire en sorte de pouvoir évoluer dans ce monde-là. L'inclusion dans la vie en société, c'est à nous aussi de pouvoir s'adapter et de pouvoir faire en sorte que les personnes autistes, mais comme toutes les personnes en situation de handicap en général, puissent s'inclure dans cette vie-là.
Vous dites que c'est à vous de vous adapter. Est-ce que la société, si je peux dire, même si c'est une idée assez théorique, n'est pas un peu en retard de son côté, elle aussi, pour inclure les gens neurotypiques ?
Bien sûr. Aujourd'hui, alors l'autisme est moins tabou, on en parle beaucoup plus, et je vous remercie aussi de faire cette émission pour que les gens puissent comprendre ce qu'il en est réellement, mais on est clairement à la bourre. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle d'autisme, on connaît l'autisme, maintenant comment on l'accompagne ? Et je pense que chaque personne, en tout cas les personnes qui côtoient régulièrement des personnes autistes, doivent bénéficier de formation, en tout cas d'être sensibilisés à tout ça pour éventuellement pouvoir peut-être repérer des signes précurseurs et de pouvoir aussi adapter l'environnement à la personne qu'elle a en face de soi.
Notre stagiaire Calista voulait vous poser une question sur un terme en particulier.
Pour vous, Cyril Larpin, l'autisme en lui-même doit-il être considéré comme un handicap, une neurodivergence comme l'affirme l'ONU, ou plutôt comme une maladie, un trouble ?
Cyril Larpin.
Eh bien, comme je disais tout à l'heure, l'autisme n'est pas une maladie, mais plutôt un handicap.
Donc le terme de l'ONU, de neurodivergence, il est plutôt partagé dans le milieu.
On est plutôt partagé. Je disais tout à l'heure, j'ai employé le terme de neurodiversité, donc on est là aussi. Mm. Hein. Mais voilà, c'est un handicap, et le handicap, comme quand on se casse une jambe, on va avoir un outil de compensation du handicap, des béquilles, par exemple. Voilà. Eh bien, nous, notre rôle, c'est d'être facilitateur et de pouvoir rendre accessibles les choses.
Dans la vie quotidienne, quels sont les signes ou les difficultés les plus courantes ? Alors, ce Kaina nous disait en première partie d'émission que ça pouvait se manifester par des problèmes de communication, notamment.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres signes fréquents ?
Il y a les particularités sensorielles. Un exemple clair, vous allez faire vos courses. Les lumières dans les magasins, le bruit, la foule, tout ce qui va se passer pour nous, neurotypiques, qui va nous sembler normal, ne l'est pas pour une personne autiste. Un petit bruit, quelque chose qui va tomber par terre.
Les lumières, vous disiez, oui.
Ouais, les lumières. Le bruit, on va mettre aussi en place des moyens de compensation, comme un casque anti-bruit, par exemple. La lumière, on va peut-être faire en sorte de baisser un petit peu la luminosité. Il y a aussi et beaucoup de stress chez les personnes autistes. On peut peut-être leur proposer d'avoir des objets sensoriels, des balles anti-stress ou des petites choses comme ça, qui vont leur permettre en fait de pouvoir se réguler d'elles-mêmes, ce qu'on appelle l'autorégulation.
Tout à l'heure, on parlait du retard de la société française pour mieux comprendre les personnes neurotypiques et les autismes, c'est ça, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait? Alors, j'ai vu qu'il y a certains cinémas, mais c'est surtout dans des grandes villes qui proposent des séances avec des lumières adaptées, avec un son particulier. Mais enfin, ça reste quasi du fait divers, c'est pas général.
C'est ça. On a des cinémas qui proposent effectivement des séances adaptées aux personnes en situation de handicap et notamment à l'autisme. On a des grandes surfaces aussi qui commencent à baisser un petit peu les lumières des magasins, enlever la musique sur des temps donnés pour justement permettre aux personnes autistes de pouvoir aller faire leurs courses pour celles qui le peuvent. Vraiment, voilà, on est dans cette mouvance-là. Alors, il y a encore beaucoup de travail, mais on est dans cette mouvance-là qui permet à la personne autiste de pouvoir évoluer dans ce monde un peu plus sereinement.
Vous êtes à l'ADAPI 58, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que, je ne sais pas si vous le savez, mais est-ce qu'à l'ADAPI, vous travaillez avec des pouvoirs publics, avec les mairies, avec les...
Alors, j'aimerais bien. C'est un projet que j'ai effectivement de pouvoir partager ce qu'on connaît, nous, de l'autisme et du handicap en général, avec des mairies, avec de faire de l'intergénérationnel aussi. Je trouve ça hyper intéressant dans le partage que les personnes plus ou moins âgées ont aussi, de pouvoir faire des activités ensemble, de pouvoir partager des petits moments conviviaux comme des cafés, de faire un peu de marche. Voilà, tout ça fait qu'on est dans cette mouvance-là. Voilà.
Je disais tout à l'heure que les États-Unis d'Amérique détectent plus de cas d'autisme qu'en France. Alors, c'est pas parce qu'il y en a plus, en fait, c'est parce que ils incluent dans leur détection plus du spectre autistique que nous, on fait ça en France. Les cas les plus légers, ne sont pas forcément inclus dans nos détections actuelles. C'est une erreur ?
Oui. Les cas les plus légers ne sont pas inclus, tout simplement parce qu'il y a des signes qui font qu'on ne s'en rend pas compte. Un enfant autiste, s'il n'y a pas de signes plus que ça, on ne va pas se poser la question de savoir s'il y a des difficultés. Comme on disait tout à l'heure en off, c'est qu'il y a une personne de 50 ans qui peut très bien se faire diagnostiquer TSA, tout simplement parce que introspectivement, il ne se sentait pas bien. Et puis un jour, il écoute une émission et se dit « j'ai ces signes-là ». Et puis finalement, on parlait d'autisme à ce moment-là. Et si j'allais pas me faire diagnostiquer, et puis au final, il se révèle qu'il est effectivement, il y a des traits autistiques. Alors on peut être autiste, mais on peut aussi ne pas forcément l'être, mais avoir des traits. Mais ça permet de mieux se comprendre et de mettre en place les outils nécessaires à pouvoir justement évoluer par rapport à ça.
Alors parlons de détection justement. Est-ce qu'on parle déjà de dépistage ou est-ce que c'est pas le bon mot ?
Non. Diagnostic.
Diagnostic.
Diagnostic. Aujourd'hui, donc, comme on disait tout à l'heure, on peut le faire dès l'âge des 1 an, avec des évaluations qui ont été, bon, on parle d'un peu plus technique, mais les PEP, par exemple, c'est une évaluation de diagnostic qui permet justement, au regard de jeu, le regard, on n'a pas parlé du regard, mais c'est vraiment quelque chose qui nous permet aussi d'évaluer si l'enfant est autiste ou pas, dans ses interactions sociales. Par le biais de jeu, on va pouvoir, à la fin de cette évaluation-là, proposer un diagnostic, donc c'est des psychologues qui proposent ce test, et au regard de la cotation, disent oui ou non, il y a de l'autisme ou pas.
C'est difficile en France de faire ce parcours du combattant, de pouvoir faire diagnostiquer un proche, dépister.
Oui.
Diagnostiquer,
oui, c'est difficile. Alors il y a des départements un peu moins difficiles que d'autres, puisque aujourd'hui dans la Nièvre par exemple, on a 2 ans de retard sur les diagnostics. On a beaucoup de demandes de famille et on a peu de réponses du corps médical,
en tout cas. Deux ans de retard.
On a 2 ans de retard aujourd'hui dans la Nièvre. En Eure-et-Loire, le système fait que le dossier est pris en charge quasi immédiatement. Alors, il y a un petit peu d'attente, mais le système permet aujourd'hui aux familles, alors c'est aussi de se faire connaître, il y a beaucoup plus de professionnels de santé, un peu plus connus aussi, qui fait que les familles savent où aller. C'est ça aussi la question, c'est ok,
il y a plus d'infos,
mon enfant, il y a des problèmes, je vais où, je fais quoi, j'appelle qui. C'est hyper compliqué dans une région telle que la Nièvre où ça a toujours été plus ou moins tabou. Vous voyez, la diagonale du vide, c'est pas pour rien. La diagonale, le désert médical, voilà. On est toujours, il y a un petit peu de retard effectivement dans la Nièvre.
Et c'est des sujets qu'on traite souvent ici à Bac FM. Mais du coup, c'est intéressant. Vous leur dites quoi aux parents de la Nièvre qui ont envie de faire diagnostiquer leur enfant? Vous leur dites de partir?
Alors il y a des non. il y a souvent eu l'idée d'envoyer la famille en Belgique. Parce qu'effectivement, les Belges, au regard de l'autisme, sont carrément plus en avance que nous, tant dans le diagnostic, mais que dans l'accompagnement, et on a beaucoup à apprendre des Belges.
C'est un modèle, le modèle belge, ouais.
On a effectivement des choses à apprendre des voisins belges, on a des choses à apprendre aussi du Canada. Voilà, c'est des modèles qui feront que quand ça arrivera vraiment en France, on pourra proposer un accompagnement davantage plus spécifique aux familles et notamment aux personnes qu'on accompagne.
À quel âge on peut repérer les signes? Donc, à partir d'un an, visiblement. Et surtout, comment ça se passe, un parcours de diagnostic sans tomber dans l'auto-diagnostic TikTok comme on peut parfois voir sur les réseaux des gens qui se disent autistes ou d'autres neurotypies?
Oui. Alors, donc là, c'est la famille. À un an de l'enfant, c'est la famille qui vraiment décide de proposer le diagnostic. Je dirais que, de toute façon, il y a deux signes qui ne trompent pas, c'est le regard, les interactions sociales. Dès que l'enfant est en capacité de pouvoir rentrer en interaction avec l'autre et qu'on voit qu'il y a un problème, là, la famille peut effectivement être demandeur. Plus tard, c'est plus l'enfant lui-même qui va se dire « Ah, il y a un truc qui ne va pas, je suis épuisé à la fin de ma journée, j'ai des difficultés pour m'exprimer, je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi. » Et là, ça va être vraiment à l'enfant ou à l'adolescent ou à la personne adulte de se dire bah, « Je vais peut-être entreprendre une démarche de diagnostic. »
Est-ce que les réseaux sociaux, ça a aidé là-dedans? Ça a peut-être permis à certains... autiste de sentir moins seul peut-être et de voir ah bah tiens lui ou elle aussi que je suis a les mêmes troubles, symptômes que moi.
Peut-être. Attention aux réseaux sociaux quand même, dans le sens où on entend tout et n'importe quoi, tout et son contraire, et ce qui fait que des fois un signe peut révéler effectivement, on peut se reconnaître dans certaines vidéos. Pour autant, je pense qu'il est important aussi de s'écouter soi-même et de pas suivre tout ce qui peut être dit sur les réseaux.
Vous évoquiez tout à l'heure la surcharge sensorielle, bruit, lumière, foule. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça se passe à ce moment-là dans le cerveau? Ou dans le corps en tout cas?
Pour être totalement vulgaire, c'est un pétage de plomb. On parle de troubles du comportement, on parle de manifestations comportementales, on manifeste par le biais d'un comportement quelque chose qui ne va pas. Et quand on parle de surcharge sensorielle, alors je parlais tout à l'heure, j'ai évoqué les termes hypo et hypersensoriel, c'est-à-dire que quand on arrive en hypersensorialité, il y a un stade à un moment donné, c'est comme un ballon qui pète, et là en fait on sort vraiment de cette régulation, on n'arrive plus à se contrôler, et ça peut se caractériser par des comportements violents ou au contraire de l'isolement, voilà, pour essayer d'arriver à se réguler. Alors après, il y a des moyens de compensation, comme des couvertures lestées, par exemple, une salle d'apaisement. Pour nous, là, qui accompagnons des personnes très déficitaires, des fois, on accompagne des adultes qui sont en surcharge, qui se frappent, qui peuvent arriver aussi à frapper les autres. C'est pas que de les isoler, que de ne pas prendre en compte vraiment leur mal-être, mais c'est vraiment de se dire, ok, là, tu te retrouves un peu avec toi-même, tu te recentres, je reviens dans 5 minutes, et là, ça ira mieux. Voilà. C'est vraiment quelque chose, un événement déclencheur, de par l'environnement, alors ça peut être tout et n'importe quoi, mais qui a créé cette surcharge. Alors après, c'est à nous aussi, dans notre accompagnement, de proposer des outils de compensation de handicap, pour justement, ils sont pas en capacité, si vous voulez, de s'auto-réguler. Et ce qui fait que c'est à nous, quand on disait que c'était à nous de nous adapter, c'est dans notre observation, dans ce qu'on peut proposer. L'idée, c'est vraiment d'être au plus proche des besoins repérés et de proposer vraiment ces moyens de régulation.
C'est pas toujours facile quand on est quand on accompagne quelqu'un autiste. Qu'est-ce qu'on peut faire nous accompagnants dans ces moments-là, parce que on n'a pas toujours une veste lestée dans la poche ou dans le sac à main.
Non, bien sûr. C'est une bonne question.
Pour les des tips.
Pour les personnes qui n'y connaissent rien à l'autisme, j'en sais rien. Alors après, il y a des signes qui sont précurseurs de ça, c'est-à-dire que peut y avoir une difficulté dans la communication. Les outils peut-être à proposer, alors après, je sais pas moi, peut-être par rapport au corps professoral, si on a une personne autiste qui ne comprend pas forcément tout ce qui est dit, c'est peut-être d'apporter du visuel, des pictogrammes, des outils de communication alternatifs tels que la tablette, etc. Peut-être que ça peut aider aussi. En fait, si vous voulez, le but du jeu, c'est pas d'arriver à la surcharge et d'avoir un trouble du comportement. Le but du jeu, c'est d'être toujours dans la prévention. Et de peut-être, alors si la personne autiste est en capacité de pouvoir parler, c'est de parler avec elle et de savoir qu'est-ce que nous, on peut proposer. Parce qu'elle-même ne sera pas en capacité de pouvoir justement faire ça.
Bac FM est une radio lycéenne, on est entre trois lycées, Raoul Follereau, Jean Rostand et Jules Renard. Est-ce que vous êtes en contact également avec des professeurs parce que vous me disiez en off que la formation était, pour pas dire insuffisante, inexistante. Comment ça se passe ?
Alors, j'étais en Eure-et-Loire avant d'arriver dans la Nièvre, et mon métier a fait que j'ai été amené à intervenir dans les collèges et dans les lycées, justement pour sensibiliser les profs à tout ça, de proposer des exemples d'outils de compensation par rapport aux situations qu'ils pouvaient rencontrer aussi en classe, comme par exemple des time-timers, des casques anti-bruit, des outils de communication alternatifs, les pictogrammes, de proposer tout ça justement pour tenter, au regard d'exemples aussi concrets qu'ils pouvaient me donner, mais c'est vrai qu'il serait bien de proposer dans la formation de professeurs peut-être un module handicap, autisme, et de faire en sorte que ben voilà,
les élèves se sentent mieux.
C'est ça.
Sokaina disait en première partie que sa sœur et elle trouvaient la force de dépasser le regard des autres. Mais le fait est qu'il est bien là, ce regard des autres. Est-ce qu'en France, on sensibilise assez ?
Plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui, avec le regard qui change de la plupart des Français aussi, sur le handicap en général, sur l'autisme. Le regard change parce qu'on le comprend mieux. Et je pense que c'est ça aussi qui est important, et c'est à nous de faire en sorte que l'autisme soit mieux compris, et ça ira que mieux ensuite.
On a tous un peu des clichés à démonter sur ce sujet ô combien complexe, et peut-être vous vous posez la question, chers auditeurs, de savoir si on en meurt ou pas, et Calista avait une question à ce sujet.
Qu'en est-il de leur espérance de vie ? Est-elle plus ou moins forte que celle des personnes non atteintes, ou bien égale ?
J'en ai strictement qu'une idée.
En tout cas, à votre connaissance, il n'y a pas tant de différence que ça d'un point de vue espérance de vie, âge à laquelle...
J'ai connu et je connais encore des personnes autistes qui ont plus de 75 ans.
Ça peut rassurer certains de nos auditeurs.
C'est ça. Peut-être qu'il y a effectivement quelque chose à voir sur l'espérance de vie. Pour autant, parce que le cerveau est différent, enfin en tout cas le fonctionnement est différent. Mais j'avoue que je ne me suis pas plus renseigné sur la question.
Pour l'entourage, comment on réagit quand on suspecte un TCA chez un enfant ou un ado ? Est-ce que qui on contacte dans la Nièvre ?
La MDPH, ce serait bien. La MDPH, donc la maison départementale, hein, des personnes handicapées, qui proposera effectivement de pouvoir remplir déjà un dossier et de prendre rendez-vous quand tu en auras un disponible auprès d'une psychologue et d'effectuer les évaluations nécessaires.
Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter ? J'imagine la culpabilisation, les injonctions de type « il faut le forcer ».
Bien sûr, bien sûr. Vous n'arriverez à rien avec une personne autiste si vous le forcez.
Donc, step by step.
C'est ça, c'est ça. On parle de renforçateurs positifs dans les apprentissages notamment, et de prendre justement les intérêts de l'enfant pour justement travailler les apprentissages.
Merci Cyril Larpent d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes éducateur spécialisé au sein de l'ADAPI 58. Merci infiniment également à notre stagiaire Calista qui a posé des questions plus que pertinentes, et merci à Sokaina qui a livré son témoignage en première partie d'émission. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir choisi Bac FM pour ce début de soirée. Votre playlist 100% pop, rock et metal revient tout de suite. Bonne soirée à tous.